Quand on nous dit allons à la maison du Seigneur. Et c'est vrai que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et même si la joie ne se voit pas forcément sur notre visage, notre joie, notre contentement est dans notre cœur. Au fond, au très fond de notre cœur, nous avons Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est lui notre joie, c'est lui notre paix, c'est lui notre salut, comme on l'a chanté plusieurs fois ce matin. J'aimerais dire bonjour aussi à Yvan et à son épouse. Merci d'être venu vous joindre à nous. Que le Seigneur nous bénisse tous en ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le premier livre des Rois. Premier livre des Rois au chapitre 19. Et nous voulons lire les versets 1 à 18. Premier livre des Rois, chapitre 19, les versets 1 à 18. Rois 19, 1 à 18. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors !» Et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va !» Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre méditation, de notre prédication de ce matin, Élie, un homme comme nous. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, le découragement et le remède de Dieu. Le découragement et le remède de Dieu. Cet épisode dans l'histoire d'Élie est intéressant et instructif à plus d'un titre. Il nous rappelle de quoi nous sommes faits, à quel point nous sommes petits et faibles devant l'Éternel. En réalité, même le grand Élie a faibli, lui qui a été surnommé l'ouragan de Dieu. C'est pourquoi il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ainsi, la faiblesse est le partage de tous les humains. Mais justement, Dieu qui nous a créés le sait bien. Et c'est pour cette raison qu'il nous vient en aide au travers de Jésus-Christ. Car Jésus le Fils a été établi souverain sacrificateur dans ce but. En effet, ayant été tenté en toutes choses comme nous, il peut secourir ceux qui sont tentés et éprouvés. C'est pourquoi, dit l'Écriture, ayant un tel souverain sacrificateur, allons à lui dans une pleine confiance, dans une pleine assurance. Et ceci nous amène à notre premier point que j'intitule « Le découragement ». Premier point donc, le découragement, exprimé par Élie en ces mots, « Je veux mourir ». Après avoir expérimenté une victoire exceptionnelle, je devrais dire, après avoir vécu au Mont Carmel et en réponse à sa prière, une manifestation extraordinaire et spectaculaire de la puissance de Dieu, Élie prend la fuite devant les menaces d'une femme. Quelle différence d'attitude, quel changement de comportement quand on pense à sa bravoure face aux 450 prophètes de Baal qu'il a égorgés sur une pierre. Oui, comment se fait-il qu'Élie, ce géant de la foi, puisse craindre une femme après avoir manifesté une si grande assurance devant l'ennemi au Mont Carmel? Comment Élie a-t-il pu être découragé à ce point? Faut-il en déduire que ce n'est pas l'extraordinaire, ni le spectaculaire, en un mot que ce n'est pas l'intervention miraculeuse de Dieu qui nourrit et fortifie réellement et durablement la foi? Car si tel était le cas, comment expliquer la fuite d'Élie? Comment, après une telle démonstration de force, de confiance en Dieu, qui exauce les prières de la foi de son serviteur, comment donc Élie a-t-il pu être découragé à ce point? Chers amis, si Élie a pu être découragé, n'était-ce pas simplement parce qu'il était un homme de la même nature que nous? D'ailleurs, et c'est évident, Élie a peur. Il craint pour sa vie et à cause de cela, il fuit. Lui, l'intrépide, l'audacieux prophète de Dieu, a-t-il peur d'une femme? Il faudrait méconnaître la perfide et idolâtre Jézabel pour écarter d'un revers de main cette possibilité. Souvenez-vous seulement du complot qu'elle a fomenté contre Naboth. Mais si cette femme pouvait agir de la sorte, c'était bien à cause de la faiblesse coupable d'Akab, le roi. Cependant, pour ma part, je ne pense pas que les menaces de Jézabel soient directement la cause de la fuite d'Élie. Elles en sont peut-être l'occasion, voire l'excuse. Mais alors, pourquoi fuit-il? Et que fuit-il? Il y a, je pense, une raison cachée, une raison profonde, qui est la cause première et immédiate de sa fuite. Et cette raison, c'est la déception. la frustration. En un mot, le découragement exprimé par ces paroles, « Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Autrement dit, Élie prend fuit parce qu'il est déçu, amèrement déçu, triplement déçu. D'abord, premièrement, il est déçu de lui-même. Et parce qu'il est déçu par lui-même, il fuit sa consécration de prophète. Seigneur, de toute façon, je ne suis rien, je ne veux rien, et tu ne pourras jamais m'employer à ton service. Laisse-moi tomber, fais-moi mourir, prends mon âme. Ce langage ne nous est-il pas familier ? Naturellement, puisqu'Élie était un homme de la même nature que nous. Deuxièmement, Élie est déçu par les autres. Et parce qu'il est déçu par les autres, il fuit sa mission de prophète. De toute façon, personne ne prête l'oreille à mes paroles. Personne ne prend au sérieux mon message. Personne ne comprend la gravité de la situation, ni le roi, ni le peuple. Personne. Tous ont été lâches et m'ont abandonné. Personne n'a tiré les conséquences du miracle que Dieu a accompli en réponse à ma foi et à ma prière. Alors, puisque c'est ainsi, je m'en vais. Décidément, Élie n'est pas autrement que nous. Troisièmement, enfin, il est déçu de Dieu. Il est déçu par Dieu et parce qu'il est déçu de Dieu, il fuit sa vocation de prophète. De toute façon, l'Éternel n'interviendra pas et il ne sanctionnera pas l'indifférence du roi et du peuple. Et surtout, il ne profitera pas de l'occasion pour leur donner une bonne leçon et leur faire comprendre que j'avais raison. Alors, puisque c'est ainsi, à quoi bon proclamer encore la parole de l'Éternel, puisqu'elle reste sans effet? Vraiment, Élie nous ressemble beaucoup. Élie donc, en considérant le résultat quasi nul de son intervention au Carmel, sombre dans le découragement. Quand on se représente l'effort qu'il a dû fournir, on peut le comprendre. Élie devait être complètement épuisé, tant physiquement que psychiquement. Imaginez à la fin de la journée, juste avant la pluie, il court devant le char d'Akab quand les chevaux font la course. Vous avez réussi? Il succombe parce qu'il est épuisé, certes, mais surtout parce qu'il prend sur lui le fait que ni le roi, ni le prophète, ni le peuple, ni le roi, ni le peuple ne se sont repentis et qu'ils ne sont pas revenus à Dieu après un tel miracle sur le mont Carmel. Voyez-vous, c'est humain, terriblement humain. Quand on prend sur soi l'échec, on est découragé. Quand on s'attribue le succès, on est enflé d'orgueil. Mais pourquoi est-il déçu? Parce qu'il s'imaginait avoir échoué. Et parce qu'il pensait avoir échoué, il se culpabilisait. Il se dévalorisait à tort, à ses propres yeux. Et cette mauvaise évaluation de lui-même et de la situation l'a conduit inévitablement au découragement. Et comme il ne peut pas se débarrasser de son ombre, comme il ne peut pas fuir son propre cœur, alors encore qu'il l'ait bien voulu, puisqu'il a demandé à Dieu de prendre sa vie, il fuit son Dieu, il fuit son appel, il fuit son ministère, car ils sont la cause de tous ses malheurs. En français courant, on dirait « Adieu, je t'ai vu ». Si seulement je n'étais pas prophète. Si seulement Dieu ne m'avait pas appelé à ce ministère. Si seulement je pouvais tout reprendre à zéro, je refuserais cette vocation. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, je comprends maintenant pourquoi Moïse a tant hésité devant l'appel de Dieu. Et pourquoi lui aussi, il a voulu mourir. N'a-t-il pas dit, Seigneur, c'est trop lourd? Je ne puis plus porter tout ce peuple sur mes épaules. Dieu n'exaucera pas la prière inconsidérée de son serviteur. Comme il n'a pas exaucé celle de Moïse, mais il interviendra dans son cœur et lui enlèvera toutes les raisons de fuir. Ah, notre Dieu, quel Dieu bon, quel Dieu sage, il sait parfaitement bien quelle prière il ne faut pas exaucer. Un jour, nous lui en serons éternellement reconnaissants. Élie n'est pas autrement que nous, et nous ne sommes pas autrement que lui. Combien de fois avons-nous pensé que notre valeur devant Dieu et devant les hommes dépendait de nos résultats? Oh, pour les hommes, c'est souvent le cas. Car ils cherchent le succès, le rendement, mais pour Dieu, jamais. Car Dieu nous aime tels que nous sommes. Et la preuve que nous avons une valeur infinie à ses yeux, c'est qu'il n'a pas hésité à nous donner son Fils bien-aimé, son seul et unique Fils, en rançon pour nos péchés. Quel sauveur merveilleux je possède. Frères et sœurs, ce qui importe pour notre Père Céleste, ce n'est pas la quantité d'actions d'éclat que nous pourrions faire voir ou faire valoir devant Dieu et devant les hommes, mais la qualité de notre obéissance et de notre fidélité. À ceux qui auront gardé sa parole jusqu'à la fin, Jésus dira un jour, « C'est tout ce que tu m'apportes ?» Va remplir ta corbeille, tu reviendras. Non. À tous ceux qui auront été fidèles jusqu'à la fin, Jésus dira un jour, c'est bien, bonne et fidèle servante, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Un tel accueil au grand jour de la résurrection, j'en suis persuadé, vaut plus que tout l'or et tout l'argent du monde. Car Dieu l'a promis, et sa bonté et sa générosité n'ont pas de limite. Et qui ne voudrait pas être accueilli de la sorte par Jésus lui-même? Si telle est notre aspiration profonde, et si tel est notre désir intense, alors vivons. Vivons et servons de telle manière que Jésus, notre Maître bien-aimé, ne puisse pas faire autrement que de nous accueillir comme il a accueilli les serviteurs fidèles de la parabole. Rappelons-nous, frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour rechercher le rendement et le profit, mais ce qu'il désire avant tout, c'est notre consécration, notre relation avec lui, intime et profonde, et notre soumission à sa volonté, tout simplement. Tout librement, dans l'esprit filial, j'aime le souligner, dans l'esprit filial du premier amour. C'est le cœur de l'homme qui répond au cœur de Dieu qu'il a aimé en premier. Car, aux yeux de Dieu, le serviteur ou la servante est plus que le service. En effet, selon la pensée de Dieu, telle sera la servante ou le serviteur, tel sera aussi le service. Et cette réflexion nous conduit à notre deuxième point. Deuxième point, l'encouragement. Exprimé en ces termes par l'ange de l'Éternel, « Lève-toi, mange !» Le fait que Dieu se soucie d'abord du serviteur sera démontré ici. En effet, l'Éternel ne fait à Élie aucun reproche. Il ne lui dit pas, dis donc Élie, tu n'as pas honte de t'accabler ainsi et de fuir ton service? Si j'avais su ça, rien de tout cela, rien. Au contraire, Dieu va le restaurer. Et remarquez que Dieu le rétablira tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Il renouvellera d'abord ses forces corporelles et ensuite ses forces spirituelles. Pourquoi ? Parce que Dieu sait très bien, puisque c'est lui qui nous a fait, qu'un corps épuisé ne recevra pas l'aliment spirituel. C'est pourquoi l'on dit couramment, ventre affamé n'a pas d'oreille. Et l'armée du salut avait raison de dire, soupe, savon, salut. Alors le Seigneur envoie son ange qui dit à Élie, qui dormait, lève-toi, mange. Et c'est ici l'encouragement. Rendez-vous compte, tout était prêt. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Mais où l'ange a-t-il pris tout cela? Est-ce qu'il a fait une commande au restaurant, en plein désert? Et Élie, ne devait-il pas être surpris que quelqu'un le réveille et lui dise « Monsieur est servi ». L'Écriture, dans sa sobriété, dit seulement qu'Élie mangea et but, puis se recoucha. Nous constatons encore une fois à quel point il devait être épuisé. Alors l'ange vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, sans manger, sans boire, comme Moïse sur la montagne, comme Jésus dans le désert. N'est-ce pas encourageant de savoir que Dieu, mieux que personne, sait prendre soin de nous, car nul ne sait si bien ce qu'il nous faut. Et non seulement il le sait, mais il le fait aussi, et il fait toujours le nécessaire. Comme il l'a fait pour Élie, il le fera pour chacun de nous, car il en a les moyens. D'ailleurs, en instituant l'Église, Dieu avait en vue la communion fraternelle et la relation d'aide réciproque. J'énumère quelques exemples brièvement, parce que je ne m'arrête pas là-dessus. Aimez-vous les uns les autres? Ah, merci. Comme je vous ai aimé. Accueillez-vous les uns les autres comme je vous ai accueilli. Veillez les uns sur les autres. Exhortez-vous réciproquement, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Portez-vous, pardon, oui, en ce sens, portez les fardeaux les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aïe, attention. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Qu'est-ce qui est le plus facile? Après la restauration physique et psychique, une fois que Élie était de nouveau debout, restauré physiquement, restauré psychiquement, alors vient l'instruction. Après la restauration, vient l'instruction spirituelle. Et là encore, remarquez la thérapie de Dieu. En disant à Élie, que fais-tu ici? Il lui donne l'occasion de s'exprimer, de vider son cœur. Deux fois, Dieu répétera la même question à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Et comme un père bienveillant et compatissant, il écoutera la plainte de son serviteur. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul, puis ils veulent encore me tuer. On ose tout dire à Jésus. Est-ce qu'on ne le chante pas? Dis-lui tout, dis-lui simplement tout. Tu peux tout dire si tu n'as pas peur de la réponse. Autrement dit, Seigneur, je me suis donné à fond pour toi. Et tout ce que j'en retire, ce sont des menaces de mort. Dieu donc écoutera Élie, mais il ne le jugera pas. Et ne le condamnera pas, et sans lui faire de reproches, il lui donnera une instruction utile et salutaire. Il lui dira, sors, Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et là, Dieu se révéla à Élie. Il y eut un vent fort et violent. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Et enfin, un murmure doux et léger. Et c'est intéressant, comment Élie savait ça? Dès qu'il entendit ce murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage de son manteau, car Dieu était là et se révélait à lui. La particularité de cette vision consiste certainement en une révélation nouvelle et bienfaisante, comme on a entendu ce matin dans la lecture de Éphésiens 1, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est vrai, Élie. C'est vrai, Élie. Je peux me manifester par des éléments violents. Mais sache également que je veux et que je peux me manifester autrement. Oui, Élie, sache encore que si je suis un Dieu jaloux, je suis aussi un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour et de pardon. Environ 1000 ans plus tard, Élie ne sera-t-il pas avec Moïse et avec les disciples sur la montagne lorsque Jésus a été transfiguré? Et oui. Mais là, sur la montagne de Dieu à Horeb, Élie a eu droit au prélude de l'Évangile. Dieu lui a probablement révélé son œuvre de salut pour lui et pour toute l'humanité. Car nous venons d'étudier dans 1 Pierre avec notre pasteur que même les prophètes connaissaient le salut que Jésus allait accomplir, mais qu'il leur était révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Frères et sœurs, il n'en fallait pas plus, mais il n'en fallait pas moins pour redonner du courage et de l'énergie aux prophètes découragés et désespérés. Et c'est ici un des principes spirituels des plus importants pour notre vie chrétienne. Il est le suivant. Comme je l'ai suggéré tout à l'heure, je pense que ce n'est pas le spectaculaire, ni l'extraordinaire, ni le sensationnel, ni l'émotionnel, mais la vision. C'est-à-dire la révélation de l'amour de Dieu qui donne son Fils pour le salut du monde, qui motive la foi et engendre l'action, c'est-à-dire l'obéissance. En effet, une multitude immense a vu la grande puissance de Dieu, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, ses hauts faits, ses signes, ses prodiges, ses miracles de guérison, résurrection, sa souveraineté sur les éléments, sur les événements, sur le mal, sur le diable. Bref, l'humanité sait que Dieu voit tout, connaît tout et peut tout, en tout temps et partout. Et pourtant, que doit dire le prophète Ésaïe? Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? C'est pourquoi le remède de Dieu à notre fatigue, à notre lassitude, à notre découragement, c'est la révélation de sa gloire, de son salut. C'est l'assurance certaine d'une vie meilleure dans un monde meilleur. Et pour nous, comme pour Élie, Dieu voudrait ce matin nous encourager à porter les regards vers lui. Et encore une fois, on vient de le chanter, vers Jésus, lève les yeux. À porter nos regards vers lui, vers la glorieuse perspective céleste qui est la nôtre, qui est la tienne en Jésus-Christ, en vertu de son œuvre à Golgotha. Mais attachez votre ceinture. Que toute la terre fasse silence devant l'Éternel. Habacuc. Mais qui? À Golgotha. Qui? Dans cette heure tragique et dramatique entre toutes, de l'histoire de l'humanité, qui, dans ce moment de détresse infinie, de douleur profonde, où Jésus agonise sur la croix? Qui, en cet instant solennel, où le Fils de Dieu s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis dans un dernier sursaut de vie, remet son esprit entre les mains du Père et enfin expire en paix, tout en accomplissant notre salut. Oui, dites-moi, qui, devant ce spectacle indescriptible, les hommes crient, les femmes pleurent, les méchants se moquent de Jésus, et puis comme sur la montagne de Dieu à Horeb, devant Élie, un vacarme assourdissant survient, la terre tremble, les rochers se fendent, les ténèbres couvrent la terre, le voile du temple se déchire, les morts ressuscitent, toute la ville est en émoi, la foule est bouleversée. Ah, je vous le demande encore. Oui, dites-moi qui, en cet instant mémorable entre tous, a perçu la voix douce et tendre de l'amour de Dieu? Qui? On peut presque les compter sur les doigts d'une main. Et nous? Et nous? L'avons-nous perçu? L'apercevons-nous encore? Ou est-ce que les vains bruits de la terre nous empêchent d'entendre le murmure doux et léger de Dieu qui dit et redit à nos cœurs « Je vous aime, je vous aime, je t'aime, je t'aime, j'ai laissé crucifier mon Fils pour toi, je t'aime ». Le comprendras-tu enfin? Quel amour! Quel insondable amour! Voyez-vous, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et disons-le ensemble. Et nous le sommes. Merci. Ceci nous amène à notre troisième et dernier point. Il sera un peu plus court. Premier point, le découragement, je veux mourir. Deuxième point, l'encouragement, lève-toi, mange. Troisième point, le réengagement. Va, fais ceci, reprends ton chemin, fais ceci, fais cela. Le réengagement, troisième et dernier point. Dieu, dans son amour infini, n'a pas dit à Élie, « Oh, puisque tu démissionnes, tu seras au chômage. D'ailleurs, tu es trop vieux pour te recycler et tu me coûtes trop cher. » Mais non, Dieu ne parle pas ainsi. Au contraire, sans aucune condition, sans aucun reproche, comme si de rien n'était, il dira à Élie, après la vision, « Va, reprends ton chemin, tu feras ceci, tu feras cela. » Ah, mes amis, quel Dieu n'avons-nous pas? Et c'est ici le réengagement. Frères et sœurs, le Dieu d'Élie n'a pas changé. Il est toujours le même. Sommes-nous déçus? Déçus de nous-mêmes? Déçus des autres? Déçus de Dieu? Alors, comme autrefois pour Élie, sans nous faire de reproches, Dieu renouvellera nos forces physiques et psychiques. Puis, quand nous serons prêts, il nous convoquera dans sa présence, dans la chambre, dans la chambre. Et là, il nous donnera une révélation toute nouvelle de sa personne et de son amour. Il réaffirmera le sens de notre vie. Il redéfinira le but de notre existence. Il nous révélera tout à nouveau la grandeur infinie de sa grâce et de son pardon. Enfin, gentiment, mais fermement, il rappellera notre engagement et nous dira, comme à Élie autrefois, « Va, reprends ton chemin. Va, va, reprends ta place dans ta famille. » Va, reprends ta place dans ton foyer. Va, reprends ta place dans ton couple. Va, reprends ta place dans la société. Va, reprends ta place dans l'église. Va, tu feras ceci, tu feras cela. Va et sois fidèle. Jusqu'au jour où, comme pour Élie, le Seigneur te rappellera à lui. Hier soir, ma fille m'a demandé, tu parles sur quoi demain ? Ah, sur Élie. Oh, il est parti sur un char de feu. Vous savez ce que j'ai dit à ma fille? Quel vénard! Mais vous savez que nous, on partira aussi, pratiquement comme sur un char de feu. Un clin d'œil, et nous serons là-haut avec Jésus. Tu y seras ? Va et sois fidèle jusqu'au jour où, comme pour Élie, le Seigneur te rappellera à lui. Je répète, c'est important. Va, reprends ta place dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer. Reprends ta place dans la société, dans ton travail. Va, reprends ta place dans l'église. Reprends ta place partout où tu vas. Va, tu feras ceci, tu feras cela, sans aucune contrainte, librement, joyeusement, par amour pour Dieu, tout simplement, par rapport aux forces que Dieu te donne, rien de plus, mais rien de moins. Va et sois fidèle, jusqu'au jour où, comme pour Élie, le Seigneur te rappellera à lui. Va et sois fidèle. Alors, notre tâche finie, nous goûterons pour toujours, avec Élie, tiens, avec Moïse. Qu'est-ce que vous voulez demander à Moïse ? Moi, je vais lui demander, Moïse, comment ça fait quand Dieu te parle au travers d'un buisson en feu qui ne s'éteint pas ? Je vais lui demander. Hé, Moïse, c'était comment ? Raconte-moi, s'il te plaît. Avec Élie, avec Moïse, avec tous les croyants de tous les temps, avec Yvan, mon frère, avec vous tous, avec nous tous. Goûtant avec tous les croyants de tous les temps le bonheur ineffable de la gloire éternelle que Dieu dans son amour a préparé pour nous. Et quand Jésus nous appelle, que va-t-il dire ? Oh, j'avais des commissions à faire, il y avait ci, j'ai eu des empêchements, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non ? Qu'est-ce que Jésus va dire quand ce sera l'heure ? Venez ! Car il n'y a rien. Il va nous dire, venez, car tout est prêt. Comme pour Élie, dans le désert, des pierres chauffées, un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Si Dieu veut nous faire vivre sans nourriture matérielle, il peut. Le prophète Moïse, le prophète, n'a-t-il pas dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez déjà réfléchi comment ça se fait que Moïse, Élie et Jésus ont pu vivre 40 jours sans manger, sans boire. Mais Jésus nous dira, pour qu'on n'ait pas peur, pour qu'on puisse se réjouir, venez, viens, viens, oui, viens, car tout est prêt.